Conférence privée par le Père Philippe à Saint-Joseph, le 28 décembre 1986.
Dans l'Église, la dimension famille, vous voyez, nous y sommes. famille. Et qu'il y a tout le temps les relations entre les deux. Le peuple, c'est la loi. C'est la loi. Et la famille, c'est le père. C'est pas la même chose du tout. Je vous ai déjà dit, toutes les relations que j'ai eues avec ceux qui, dans le peuple d'Israël, ont la foi. La foi dans le Messie qui doit venir. La foi, c'est toujours la Torah. Moi, ça m'a toujours beaucoup frappé. Alors que personnellement, avec les pères de l'Église et l'Évangile de Saint Jean, c'est Abraham pour moi. Abraham, Isaac et Jacob, les trois pères. Alors que pour Israël, c'est la loi, c'est Moïse. Vous voyez, on retrouve déjà dans l'Ancienne Alliance la famille et le peuple. C'est très très curieux ça. Alors il ne faut pas séparer, hein, surtout pas. Mais il faut distinguer. Il faut distinguer. Parce que c'est quand même quelque chose qui me semble extrêmement important. Et quand on fait des confusions dans ce domaine-là, on fait des terribles confusions. Vous voyez, ça a commencé par la famille. Pierre, Jean court plus vite que Pierre. La famille va plus vite que le peuple. Ça court plus vite, petite famille. Tandis que le peuple, c'est forcément... C'est le régiment, comme vous, c'est. Donc c'est beaucoup plus lent, tandis que la petite famille, ça court. Ça a commencé par la famille, puis sa structure. Le peuple, ça se structure par la loi. C'est pour ça qu'on est un peu séduit par le peuple. Il y a une séduction de structuralisme. On est séduit, le peuple, ça se structure, c'est la loi, sa structure. Il n'y a pas de loi dans une famille. Oh, béatite, c'est la béatitude. Il n'y a pas de loi dans une famille. Mais il y a un père. Et quelquefois, un pater familias. Hein. Vous voyez ça? C'est vrai. Il y a toujours l'équilibre des deux. Alors, il y a des constitutions dans une famille. Il y a des règles de famille. Il y a des traditions de famille. Les traditions, c'est du côté de la famille. C'est pas du côté du peuple. Mais non, pas du tout. Il y a des traditions. Et quand les enfants grandissent, on fait des petits contrats. Mais pas des lois. Il n'y a pas de justice dans la famille. Certains me disent, il n'y a pas de justice. Le fils a le droit de voler l'argent dans la poche de son père si le père ne fait pas attention et que le fils est astucieux. Et il ne commet pas un péché contre la justice. C'est indélicat. C'est un manque de piété filiale, c'est un manque d'amour. Mais c'est, au sens strict, c'est pas la justice. C'est pas contraire à la justice. C'est très curieux. Alors que de voler de l'argent d'un fonctionnaire, c'est une injustice, hein, c'est bien évident. Percepteur d'impôts, il allait la poche trouée et vous ramassez les sous-barres derrière. Non, c'est une injustice. C'est contraire à la loi. Mais il y a des tas de choses qui sont très importantes à souligner, à comprendre. Que de fait, la famille est première. Et la famille s'arrête pour que Pierre entre. Et Pierre, c'est la structure de l'autorité, la hiérarchie. L'autorité avec un pouvoir. Le père a autorité sans pouvoir. Tandis que le législateur, il a un pouvoir. Il a une autorité, mais il a un pouvoir. Et puis, la famille repasse après. Et elle est première, et puis elle revient après pour le rayonnement. Ça, c'est très net. Un peuple ne peut pas vivre sans la famille. Et c'est la famille qui fait un pays. Une nation, c'est le peuple. Et un pays, c'est la famille. C'est l'enracinement. Ça, c'est des choses naturelles que nous vivons et que nous voyons. Et l'Église, puisqu'elle a un enracinement dans la nature humaine. L'Église est famille. L'Église est peuple. L'Église est famille. Je dirais ça, moi. Elle est famille, elle est peuple et elle est famille. Les rapports de Jean et de Pierre. Jean sait très nettement, c'est la famille, c'est pour ça que Marie lui donnait. La famille, c'est la mère. Mais quand on a de la peine à comprendre le mystère de Marie, c'est parce qu'on est trop peuple. Parce que c'est une mère, c'est la famille. Ça, c'est sûr. Il faut attendre les femmes qui veulent à tout prix devenir présidente de la République. Mais c'est très bien, ça. Mais on voit très bien que c'est toujours un tout petit peu à côté. C'est très bien que ça existe pour rappeler qu'elle est l'égale de l'homme et qu'elle peut être présidente de la République. La prochaine serait une présidente de la République, serait une femme en France. Il faut bien, il faut pas être en retard. Bon. C'est elle qui s'ouvre le pays, comme ça. Elle sera ni Chirac, ni Giscard, ni Mitterrand. Alors, il faut une femme pour ça, pour dépasser les trois. C'est impossible autrement. C'est curieux, ces choses-là. Et il faut les retrouver. On les retrouve dans l'Église. Parce que c'est des choses qui sont importantes. Une mère, c'est bien plus grand qu'une présidente de la République. C'est vrai, c'est une mère. C'est bien plus fort, c'est bien plus profond. Alors, Saint Jean nous rappelle l'unité et une unité familiale. On ne peut pas se contenter pour l'Église d'une unité politique du peuple. Ce serait l'uniformité. La famille a ceci très particulier, c'est que chaque famille a son style de vie. Et c'est le propre de la famille. C'est là, je crois, qu'il faut regarder le pluralisme. C'est au niveau des familles. C'est pas au niveau politique, c'est pas au niveau du peuple. Le peuple demande d'être un. Et il demande d'être un. Lorsque le peuple n'est plus un, il y a des rivalités. Il y a des rivalités familiales, mais des rivalités familiales, ça se résorbe beaucoup plus facilement. Jean nous apporte l'unité au niveau familial, dans la diversité. L'unité dans l'ordre de l'amour. Alors, je crois, vous voyez, que si on regarde attentivement ce désir que du cœur de Jésus, que Saint Jean nous transmet, que j'ai essayé de vous exprimer rapidement en regardant Saint Jean hier. Aujourd'hui, on voit comment se réalise cette unité. C'est le quo modo. Comment se réalise cette unité? Cette unité, elle se réalise dans une famille. Et ça, je crois que c'est absolument net. La Sainte Famille, c'est le comment de l'unité. Et l'unité dans l'Église, elle se réalise dans une famille. Et dans une famille sainte, la sainte famille. Il n'y en a pas 36 saintes de sainte famille, il n'y en a qu'une. Toutes les autres familles ne sont pas saintes. Elles tendent vers la sainteté, elles désirent la sainteté, mais elles ne sont pas saintes. Tandis que la sainte famille est sainte. Elle est sainte dans son terme. Dans son fruit, dans le mystère de Jésus. C'est ça qui caractérise la Sainte Famille. C'est la sainteté. C'est la sainteté des trois. Mais un joue le rôle de source de tous les autres. Vous voyez, le mystère de la très sainte Trinité réfléchit dans la Sainte Famille. C'est très curieux. Et c'est très beau, ça. Parce que vous voyez tout de suite, il y a une source unique. C'est Jésus. C'est la source unique. Il y a une source maternelle. Et puis, il y a un père. Mais alors, voyez les renversements hein, dans l'ordre surnaturel, l'ordre naturel. C'est quand même très étonnant, ces choses-là. Moi, je trouve ça très admirable de voir la différence entre l'unité d'une famille humaine et l'unité de la Sainte Famille. Marquez tous les renversements. L'enfant, d'habitude, c'est quand même celui qui vient en dernier lieu. Et c'est toujours celui qui vient en dernier lieu dans l'ordre temporel, selon l'ordre génétique. Ici, l'enfant, c'est le premier dans l'ordre divin, dans l'ordre de perfection. C'est le premier, c'est Jésus. Et c'est lui qui est prêtre. Un prêtre qui est un enfant. C'est peut-être ça le secret du sacerdoce chrétien. D'habitude, ce sont des vieillards, selon l'Ancien Testament, sont des vieillards. Un prêtre qui est un enfant. Ça, c'est la genèse du sacerdoce chrétien. C'est la chose merveilleuse de la Sainte Famille. C'est que tout relève de Jésus. Vous voyez, c'est la sainteté qui dépasse l'autorité. Parce que c'est ça. Le pater familias romain, c'était l'autorité paternelle qui dominait tout. Si vous ne vouliez pas, on vous promenait. Hein. L'autorité paternelle, pater familias. Parce que Jésus arrive au moment du pater familias. Hein. Il faut bien voir ça. Il est le moment. Rome a sa philosophie stoïcienne extraordinairement forte, épictète. Puis, à Nazareth, à Bethléem, cette petite famille qui renouvelle tout, qui reprend tout, qui passe devant le pater familias. Et c'est l'enfant Jésus. Je trouve ça extraordinaire, n'est-ce pas? Dans la sagesse de Dieu, Dieu voit tout. Nous regardons partiellement, mettez en comparaison les deux. Et voyez ce que ça représente. Ce dépassement inouï du mystère de la Sainte Famille. C'est l'enfant, le tout petit enfant Jésus, qui est la sainteté. Et tout est pour lui. Et c'est lui qui donne le sens à la Sainte Famille. C'est pas Marie. C'est Jésus. Marie est toute relative à Jésus. Et Joseph est tout relatif à Marie, puisqu'il ne peut regarder Jésus qu'à travers Marie. Parce qu'il sait que c'est en regardant Marie qu'il atteindra Jésus de la manière la plus forte, puisqu'il n'est pas le Père immédiatement. Il est Père parce qu'il est l'époux de Marie. C'est extraordinaire, ça. Je crois que ça, il faut... Vous voyez, Saint Grignon de Montfort va très loin dans son regard sur Marie, mais n'a pas dit ça, et je crois qu'on devrait le dire aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est la chose la plus étonnante. Ça m'a beaucoup bouleversé, Stanislas. Quand on essaie de comprendre un tout petit peu le regard de Joseph sur l'enfant Jésus, Joseph comprend qu'il ne regarde l'enfant Jésus parfaitement que par Marie. Il est l'époux. Et l'ange le dit, hein, l'ange l'indique. Alors l'on voit bien la place de Marie pour la contemplation. Bon, au niveau temporel, Marie respecte totalement Jésus, totalement Joseph. Et Jésus respecte totalement Joseph. Vous voyez, quand nous essayons, nous, de mettre nos saints Joseph, au niveau temporel, est-ce que c'est pas parce que la Sainte Famille nous le demande? On ne peut pas mettre ça dans les constitutions, on ne comprendrait pas. Le droit canon a de la peine à comprendre la Sainte Famille, parce que la Sainte Famille est au-delà du droit canon, mais elle le fonde. Elle fonde toute l'Église, la Sainte Famille, et donc elle fonde le droit canon. L'enfant Jésus respecte l'autorité de Joseph au niveau temporel. Et Marie respecte l'autorité de Jésus, l'autorité de Joseph au niveau temporel, à tel point que c'est Joseph qui est averti pour filer en Égypte au moment où Hérode est furieux. C'est pas Marie et c'est pas l'enfant Jésus. Vous voyez, si on était dans des légendes merveilleuses, étonnantes, je crois qu'on aurait inventé un rêve de l'enfant Jésus. L'enfant Jésus aurait dit en se réveillant à sa mère: il y a un danger, il y a un danger. Hérode va venir, il faut m'emmener. C'est ça, c'est tout à fait. C'est dit d'une légende, d'un enfant héroïque, oui, cet enfant héroïque, merveilleux. Il faut. Il se réveille le matin en disant ça, il a eu un cauchemar. Il faut partir. Il dit ça à sa mère, et la mère le dit au père. Voilà comment ça se passerait. Dans toutes les légendes, c'est comme ça. Quand il s'agit de la sagesse de Dieu, c'est Joseph. Oh, c'est beaucoup moins drôle. C'est Joseph qui est averti par un songe, qui dit ça à Marie, et on ne demande rien à l'enfant. Pourtant, c'est lui la sainteté. Hein? Alors si vous voulez la sainteté, acceptez qu'on ne vous demande pas votre avis et qu'on vous emmène en Égypte. Et quand vous relevez le rideau quand même, on pourrait quand même demander mon avis quand même. N'oubliez pas que l'enfant, la sainteté, c'est ça, la petitesse évangélique, elle est là. Et c'est ça la petitesse évangélique. C'est ça la sainteté que nous apprend la Sainte Famille. On a de la peine à comprendre. Le noviciat, c'est ça le noviciat. Si c'est sérieux, si c'est divin. Le noviciat, c'est quand même rentrer dans la Sainte Famille. C'est essayer d'établir dans l'Église la Sainte Famille. S'il n'y a plus de noviciat, il n'y a plus de Sainte Famille dans l'Église. C'est pas commode de retourner dans ce mystère de la Sainte Famille. C'est le mystère. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Vous voyez, quand la Sainte Famille tombe avec les saints innocents, il y a quand même une rencontre assez extraordinaire. Voir que cette année-ci, le Seigneur nous indique qu'il faut que le noviciat soit une Sainte Famille. Et dans la Sainte Famille, il faut bien comprendre qu'il y a l'autorité temporelle, l'autorité maternelle et l'enfant. L'autorité temporelle, le prieur. L'autorité maternelle, le maître des novices. L'enfant. Alors évidemment, quand Dieu bloque les deux, alors je sais pas la signification profonde. Il y a sûrement une signification profonde. C'est dans un état de crise. Dieu unit les deux, pas pour que ce soit plus compréhensible divinement. Alors, il faut essayer de comprendre ce grand mystère de la Sainte Famille. La sainteté, c'est l'enfant. La sainteté, c'est l'enfant. Et c'est la source de toute sainteté. Et tout recommence par là. Marie, la mère, celle qui est le plus proche de l'enfant Jésus. Et Joseph, l'autorité temporelle que Jésus respecte. Vous voyez, on est très loin du point de vue peuple. Très loin. La preuve, c'est que dès que le peuple sait que la Sainte Famille existe, on veut la supprimer. Le peuple, c'est Hérode. Et il veut la supprimer. Il veut supprimer l'enfant. Il veut supprimer le noviciat. Hérode, hein, notre cher Freud, hein, il veut supprimer le noviciat. Parce que Freud supprime le noviciat, ça, c'est sûr, hein, à sa manière idéologique, plus terrible qu'avec des... Vous avez tous vu, hein, des gravures des saints innocents, ça reste dans notre mémoire, quand on a vu ça quand on était gosse. Hein. Et qu'on voit ces soldats qui portent les enfants un pied et puis la tête du cul. Tout ça, c'est resté dans notre mémoire. Parce que Hérode qui envoie ses gardes, ça. Et bien Freud fait ça. Exactement. Par son idéologie. Et on est tous imprégnés de ça. C'est pour ça que c'est si difficile de garder un officier aujourd'hui. Mais si difficile. Parce que. On veut le supprimer. On veut supprimer l'autorité, on veut supprimer la petitesse évangélique. Ça n'a plus de mise, la petitesse évangélique aujourd'hui. On est tous des adultes, on est tous des grands, on sait très bien ce qu'on doit faire. Alors que l'Esprit Saint redemande la petitesse évangélique. Et au fond, vous voyez, si on va jusqu'au bout, la vie religieuse maintient la Sainte Famille dans l'Église. Notre place dans l'Église, c'est d'être la Sainte Famille. Et c'est peut-être cela que Saint Jean nous demande. Ça va très loin, ça. C'est de maintenir dans l'Église cette place tout à fait particulière, privilégiée. Une place très privilégiée. C'est le fondement. Vous savez, il y a des choses quand même très curieuses selon les lois providentielles de Dieu. ce qui nous est dit dans l'Apocalypse. L'alpha et l'oméga se tiennent. Bon, si on est dans l'oméga, je crois que Théard était prophète, hein, et on est dans l'oméga. Si on est dans l'oméga, dans le développement de l'Église, et si on arrive à la dernière semaine, si on est entré avec Vatican II dans la dernière semaine et qu'on est tout proche de l'an 2000, on s'y rapproche très rapidement. Chaque année un peu plus, et ça va très très vite. 1987. 87, c'est un chiffre très très particulier. On est assez proche du terme. Il ne faut plus beaucoup d'années avant d'arriver à l'an 2000. Je ne sais pas ce qui arrivera à l'an 2000, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Mais on est quand même dans la dernière semaine. On s'approche. Alors, l'oméga et l'alpha. L'alpha est présent dans l'oméga d'une façon très particulière. Je crois. Je crois qu'il y a pour nous, avec Saint Jean, qui est celui qui nous fait comprendre ça, puisque c'est Saint Jean qui nous donne l'Apocalypse, et donc il nous fait comprendre ça, il nous donne l'intelligence de ça. Et c'est très important d'avoir l'intelligence de ça. C'est pas commode. Il faut maintenir toujours les deux ordres. L'aspect historique du développement de l'Église. L'aspect historique du développement de l'Église. C'est très important, l'aspect historique du développement de l'Église. C'est dans ce sens-là qu'on doit aimer l'histoire de l'Église et comprendre que l'Église a subi tous ces mouvements. Pour comprendre où l'on en est dans l'histoire de l'Église, il faut regarder un tout petit peu ça. Et puis, l'aspect vertical du primat, de la sainteté, de la perfection. Les deux, c'est comme ça que l'alpha et l'oméga se tiennent. Si vous ne voyez pas ces deux aspects tout le temps, vous ne comprenez pas comment l'alpha et l'oméga se tiennent. Parce que quand vous regardez uniquement un ordre de développement historique, l'alpha est très loin. Là, vous prenez une méthode archéologique pour redécouvrir la Sainte Famille et vous ne trouvez rien. Il n'y a pas une seule pierre qui nous fait découvrir la Sainte Famille. C'est invraisemblable, hein. À Nazareth quand même, hein. On aurait pu garder la maison de la Sainte Famille. On cherche. Alors évidemment, on vous présente la maison de Joseph. Le juste. On n'en sait rien. Hein? On n'en sait rien. C'est très intéressant au point de vue archéologique. C'est très très intéressant de descendre et de voir la pierre rouler, le tombeau du juste. C'est très très intéressant. On n'en sait rien ici à la Sainte Famille. On ne sait plus. C'est quand même invraisemblable. De ne même plus savoir le lieu exact de la Sainte Famille, où les pieds du petit Jésus aient touché la terre quand même. On aurait dû garder des petits sachets. Et avoir ça, c'est la coupe des cheveux. C'est rien du tout. Rien du tout. On ne sait plus rien de la Sainte Famille. Et elle est présente. Elle est présente. Divinement présente. Vous voyez, au point de vue alpha, vu d'un point de vue purement temporel, rien. Au point de vue, si je mets l'oméga, le regard d'éternité, la Sainte Famille est présente, elle est vivante. Elle est vivante dans nos cœurs, et elle est vivante dans la vie religieuse. Et c'est la vie religieuse qui doit garder la Sainte Famille comme le mystère du renouveau de l'Église. C'est le mystère du renouveau de l'Église. Si on n'atteint pas la Sainte Famille, on n'atteint pas l'aspect fondamental. Une maison doit atteindre le roc. Si elle n'atteint pas le roc et qu'elle bâtit sur le sable, à la première tourmente, elle est balayée. Hein? Jésus nous le dit et nous donne de très bons principes là-dessus. Il faut atteindre le roc. Et le roc pour nous, c'est la Sainte Famille. Il n'y en a pas d'autre. C'est la sainteté de l'enfant Jésus. C'est la sainteté de ce sacerdoce d'enfant. C'est la sainteté de Marie et la sainteté de Joseph. Les trois grandes dimensions de la Sainte Famille qui sont des dimensions d'Église. Et l'Église, si elle ne reprend pas... Or, quels sont ceux qui peuvent comprendre la Sainte Famille? Je crois que c'est le privilège de la vie religieuse. Je crois. Je crois que c'est le privilège de la vie religieuse. Je vois très difficilement en dehors de la vie religieuse. Oui, on fête liturgiquement, mais profondément. On ne touche pas le mystère. Et on n'en vit pas. Je crois que le renouvellement de l'Église, qui doit être par la vie religieuse, doit être ce renouvellement qui atteint la Sainte Famille et qui fait vivre la Sainte Famille. Et c'est la vie religieuse qui reprend tout à la racine. Alors c'est le mystère de la Sainte Famille. Mystère de sainteté. Mystère d'amour. Tout est fait pour l'amour, pour le développement de l'amour. Un amour prodigieux, puisque c'est la source même qui la présente. La Sainte Famille, pour nous, elle se construit autour de l'Eucharistie. La présence de la petitesse de Jésus. C'est vrai, c'est l'Eucharistie qui en est le centre. Et au noviciat, c'est l'Eucharistie qui en est le centre. Et dans la vie religieuse, c'est l'Eucharistie qui en est le centre. Et tout est ordonné vers ça. Cette mystère.
Un exercice divin, le don de conseil, pour
pour que l'amour divin, la charité fraternelle, puisse s'incarner pleinement. Pour que la sainteté puisse être toujours présente. Voyez comment nous devons saisir cette unité, le comment de l'unité de l'Église commence par la Sainte Famille. Et c'est la Sainte Famille qui nous donne le modèle de l'unité de l'Église. Et la Sainte Famille continue dans la vie religieuse. Il faut que nos communautés soient un mystère de Sainte Famille. C'est-à-dire avec un primat absolu de l'amour, un primat absolu de la présence de Jésus. C'est une famille contemplative, hein, la Sainte Famille. C'est une famille contemplative. C'est pour ça qu'il y a ce primat de la présence de Jésus. C'est une famille contemplative et tout est ordonné vers la contemplation. C'est propre d'une sainte famille, ça. Tout est ordonné vers... Et c'est dans ce sens-là, vous voyez, que dans la vie religieuse, tout peut être ordonné vers la contemplation. Mais c'est très, très difficile en dehors de la vie religieuse. Je crois que c'est très difficile. C'est impossible qu'une famille, selon la chair et le sang, soit ordonnée vers la contemplation. C'est impossible. Jésus, dans sa vie cachée, a voulu vivre le sacerdoce royal de l'enfant. Voyez, on devrait dire ça, on devrait lancer le sacerdoce de l'enfant. C'est le sacerdoce royal des laïcs. Et c'est ce sacerdoce-là que Jésus a vécu. Et c'est ce sacerdoce-là qu'on doit vivre dans la vie monastique en premier lieu. C'est plus important que le sacerdoce ministériel. C'est beaucoup plus important. Et si on vivait pleinement, il n'y aurait plus cette concupiscence du sacerdoce ministériel. Parce qu'il y a une concupiscence du sacerdoce ministériel qui fait que dans l'intérieur de la vie religieuse, il y a subitement des coqs qui montent avec des crêtes. Je suis prêtre. Dans les mêmes moines. Respectez-moi, je suis prêtre. Alors à partir de ce jour-là, on ne peut plus rien leur dire. Mais non, ils sont moines avant tout. Ils sont totalement consacrés à Dieu. Ils sont des agneaux avant tout. Et alors la crête qui pousse sur l'agneau, ça fait quelque chose d'assez particulier. Et c'est vrai, ça, c'est vrai. Il faut le voir concrètement, il faut comprendre ça. Que Dieu demande le sacerdoce de l'enfant. Et le sacerdoce de l'enfant, c'est la Sainte Famille. C'est le sacerdoce du Christ. Le Christ est prêtre, enfant. Parce qu'il est prêtre substantiellement et personnellement comme fils bien-aimé du Père. Alors il est prêtre comme enfant. Et c'est la première chose qu'on nous dit. C'est la première chose qu'on voit. Ça, c'est le sacerdoce des moines. C'est le sacerdoce de ceux qui sont totalement consacrés à Dieu. Notre vie de consacrée, elle est là. Dans cette vie contemplative, sacerdotale, avec ce sens de la responsabilité vis-à-vis de tout le monde entier et de tous les pécheurs. Et cette vie sacerdotale, cette vie monastique sacerdotale, contemplative, va impliquer un accueil apostolique, va impliquer pour certains, avec le sacerdoce ministériel, une prédication, un enseignement. Il faut bien comprendre la vie monastique, contemplative, qui à ce moment-là dépasse l'aspect vertu pour être directement lié aux vertus théologales et à la contemplation. C'est ça que nous enseigne la Sainte Famille. Et c'est là le renouveau de l'Église. Et c'est ça que nous devons comprendre. La liturgie dans la Sainte Famille, elle est très, très... Elle est très grande, elle est très belle, elle est magnifique. Mais elle est seconde. Il y a le travail obscur. Travail de Joseph, travail de l'enfant Jésus, travail de Marie. C'est très obscur le travail de Marie. C'est très simple. Il y a le travail, et le travail est une liturgie. C'est la liturgie des moines contemplatifs. Un travail silencieux, un travail qu'on doit faire avec le plus d'amour possible, qu'il s'agisse du travail de la chaudière, qu'il s'agisse du travail de la cuisine, qu'il s'agisse du travail philosophique ou théologique. C'est toujours un travail liturgique, fait à Nazareth. À la manière de Nazareth, en vue de la contemplation et pour la contemplation. Il faut demander ça très fort. Aujourd'hui, comme grâce, alors on comprend ce que c'est que la prudence surnaturelle de Joseph. Tout ordonné vers la contemplation, tout ordonné vers cet accueil apostolique lié à la contemplation, inséparablement. C'est ça la prudence de Joseph, c'est une prudence qui est paternelle et qui exige de toujours tout ordonner à la contemplation, mais immédiatement ordonner à la contemplation. Demandez cette grâce aujourd'hui. Le renouveau de l'Église passe par la Sainte Famille. Il ne peut pas ne pas passer par la Sainte Famille et par le fait même, il passe par la vie religieuse. Et comme nous sommes dans ce renouveau de l'Église, et que nous sommes, vous voyez, c'est la différence du renouveau charismatique et le renouveau de la vie religieuse. C'est la Sainte Famille. Il n'y a pas grand-chose de charismatique dans la Sainte Famille. C'est vrai, c'est le silence. C'était charismatique. L'enfant Jésus aurait été réveillé le premier pour partir en Égypte. Tandis que c'est Joseph. C'est un charisme qui montre la grandeur de l'autorité de Joseph. C'est très curieux. C'est pas un charisme d'indépendance qui exalterait le petit enfant Jésus, qui exalterait Marie. Non. C'est un charisme pour l'exercice de